Bienvenue dans The Debate. Imaginez un peu une élection qui se plie en l'espace de quelques minutes seulement.
C'est presque difficile à croire.
Ah oui, complètement. 142 électeurs inscrits, pas l'ombre d'un seul adversaire. Et un candidat déclaré vainqueur presque instantanément.
C'est ce qui s'est passé en 1853, n'est-ce pas? Dans la petite bourgade de Russell.
Exactement. Le tout premier scrutin législatif de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, nous analysons la naissance de cette première chambre des représentants de 37 sièges.
Avec une vraie question de fond, est-ce que ce scrutin est le fondement pragmatique d'une gouvernance autonome?
Ce dont je suis intimement convaincu.
Ou bien, et c'est ma position, l'institutionnalisation pure et simple d'une oligarchie bâtie sur l'exclusion.
Voilà, le cadre est posé. Alors pour commencer, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte du terrain de l'époque. Le Parlement de Londres vient tout juste de voter le Constitution Act.
Le plan de construction institutionnelle, en quelque sorte.
C'est ça. Sauf que mettre ça en place localement, c'est un cauchemar logistique absolu. Poser les jalons d'un gouvernement représentatif au milieu de forêts impénétrables, de mers agitées.
Oui, enfin, le vote de Russell a été expédié de manière un peu chaotique, non ?
Chaotique, certes. Mais lancer la machine était vital. C'est le pragmatisme en action, tout simplement.
Mais attendez, on ne peut quand même pas tout excuser par la logistique. Le problème de fond, c'est la légitimité même des règles du jeu de ce scrutin.
C'est-à-dire ?
Bah, le système est vicié dès le départ. Il importe tel quel le suffrage censitaire britannique.
Vous parlez du fait que le droit de vote soit directement lié à la propriété ?
Précisément, oui. Pour voter, la loi exige de posséder ou de louer un logement d'une certaine valeur. Or, en Nouvelle-Zélande, cela a un effet dévastateur.
À cause de la population maori.
Exactement. La population maori, qui est largement majoritaire à l'époque, détient ses terres de manière collective. C'est la coutume.
Oui, je vois.
Donc, en imposant un critère de propriété individuelle, on écarte mécaniquement la grande majorité des Maoris du scrutin. On taille un corps électoral sur mesure pour les colons britanniques propriétaires.
Je vois bien ce que vous pointez du doigt. Mais ne balayez pas la réalité géographique si vite.
Je ne la balaye pas, mais il faut être lucide.
Vous parlez d'une machination d'exclusion, alors que beaucoup de ces, disons, bizarreries électorales s'expliquent vraiment par les distances.
Vraiment.
Oui. Prenez l'étalement du scrutin jusqu'au 1er octobre. Ce n'est pas une manipulation politique. C'est juste que les officiers chargés de recueillir les suffrages doivent voyager par bateau d'une baie isolée à l'autre.
Ah, justement, parlons-en de cet étalement. C'est exactement ce qui transforme cette élection inaugurale en un véritable jeu de chaises musicales.
Un jeu de chaises musicales, oh là là. Comment ça ?
Eh bien, la mécanique même de ce vote échelonné permettait des absurdités monumentales. Puisque les élections durent plusieurs mois, un riche candidat qui perd dans une circonscription d'Auckland...
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Il peut littéralement prendre un navire, descendre la côte et se présenter à nouveau ailleurs quelques semaines plus tard.
Oui, c'est vrai que c'est assez cocasse.
Hugh Carleton, le fameux vainqueur de Russell, se vante d'être le père de la chambre. Mais c'est un pur hasard du calendrier maritime. C'est uniquement l'ordre des bateaux qui a fait de sa circonscription la première étape.
D'accord, la mécanique tient du bricolage, je vous l'accorde bien volontiers. Mais regardez la finalité politique.
Laquelle ?
À cette époque, le gouverneur britannique, George Grey, quitte le pays. Il laisse derrière lui un système où le pouvoir exécutif reste très fermement contrôlé par la couronne.
Mais c'est ce qui prouve mon point. Cette nouvelle classe politique locale, ces marchands, ces propriétaires terriens qui se disputent les mêmes arpents de terre.
Oui.
Ils n'ont pas de réel pouvoir. Ils sont élus dans la quasi-indifférence pour protéger leurs propres affaires foncières, sous l'œil bienveillant de Londres, bien sûr.
Non, alors là, je suis en désaccord. C'est là que vous sous-estimez l'importance de ce moment.
Vraiment ? En quoi ?
Même si l'édifice est incomplet, l'assemblée qui va siéger à Auckland est cruciale. C'est l'unique tribune permettant d'exiger ce qu'on appelle un gouvernement responsable.
C'est-à-dire un exécutif qui rend des comptes au Parlement local plutôt qu'à la métropole.
Exactement. Sans cette assemblée, aussi restreint soit son électorat initial, il n'y a absolument aucun levier politique. C'est l'outil indispensable pour arracher l'émancipation face à la Grande-Bretagne.
L'argument est séduisant sur le papier, je l'admets, mais il faut comprendre le mécanisme pervers que cela crée.
Lequel ?
On institue un parlement pour émanciper une petite minorité de notables de la tutelle de Londres, tout en plaçant la majorité absolue de la population locale sous la tutelle de ces mêmes notables.
C'est une lecture très sévère.
Je suis convaincue que des fondations bâties sur l'exclusion produisent inévitablement un système structurellement inégalitaire.
Nous continuerons sans doute d'avoir des lectures divergentes sur les intentions de l'époque, Mais je crois qu'on peut s'accorder sur une chose.
Je vous écoute.
Ce premier scrutin transpire l'inexpérience totale de la jeune colonie.
Oh que oui. C'est une élection tellement improvisée que personne ne connaissait la composition complète de la Chambre avant l'automne.
Voilà. 37 premiers élus qui se retrouvent à devoir inventer les règles de leurs institutions en même temps qu'ils les appliquent.
C'est vertigineux.
Ça l'est. Et ça nous laisse face à une réflexion fascinante. Comment asseoir la légitimité d'une gouvernance naissante avec un tel mélange d'exclusion systémique et d'improvisation logistique?
Une très bonne question à méditer en lisant davantage sur cette période.
Le débat reste ouvert en...